Versailles, le piège à Noble. Vous l'attendiez ? Nous y voilà. Entrez, entrons dans Versailles et émerveillons-nous, étonnons-nous, retenons nos rires, nos hauts le cœur ou nos larmes. Des lapins peureux, des lièvres fuyards, des pigeons en tout genre, des buses, des perdrix, des sangliers grognons, des cerfs à grandes cornes, des douces biches et des chevreuils graciles, des colombes sauvages, des corbeaux et des pies. On trouve tout cela à Versailles, petit village de 500 habitants. Le lieu est giboyeux à souhait. Voilà pourquoi le roi Louis XIII, en 1624, y a fait construire un pavillon de chasse pour remplacer un vieux donjon dans lequel il étendait, à même le sol, de la paille pour dormir lorsqu'il rentrait trop tard d'une battue ou qu'un cerf l'avait emmené trop loin pour rentrer à Paris avant la nuit. Lorsque Louis XIV fait la connaissance de Mademoiselle de la Vallière, Françoise-Louise de la Baume-le-Blanc, duchesse, en 1667, de la Vallière pour être complet, il fait rouvrir le château qui avait été abandonné à la mort de Louis XIII. Les amants y ont de tendres rendez-vous. Dès 1661, les travaux à Versailles commencent. Le nôtre dessine les jardins. Louis XIV y donne de nombreuses fêtes sur les premiers plans d'eau, telles celles du 7 mai 1664, les plaisirs de l'île enchantée. Cette fête a été préparée par Louis pour Louise. Tout le monde le sait, même si la reine Marie-Thérèse, si effacée et qui parle si mal le français, est la marraine de ses réjouissances. Une loterie clôt la soirée. Évidemment, la reine emporte le gros lot. Mais il y a aussi des pierreries de grand prix qui sont gagnées par Louise, prête à défaillir de bonheur. Versailles. Le roi et sa cour s'y installent en 1682. La gloire du souverain ne va cesser d'y croître.
La pompe à eau de Marly. Pour le château, Louis XIV veut des fontaines. Et pour ces fontaines, il faut de l'eau. L'étang tout proche de Clagny n'en contient pas suffisamment. Que faire ? En 1681, un charpentier de Liège, Rennequin Sualem, va proposer au roi une machine qui peut pomper l'eau à 7 km dans la Seine, à Bougival, et la conduire à Versailles. Malgré la dépense énorme, Louis XIV n'hésite pas. Plus de 10 000 ouvriers vont travailler pendant 4 ans pour la construire. Au terme de ces 4 années, la machine fonctionne à merveille, mais elle ne débite pas suffisamment. 3 000 mètres cubes au lieu des 6 000 mètres cubes prévus. Elle servira alors à approvisionner les fontaines de Marly, d'où son nom, la machine de Marly.
De larges allées, des perspectives à n'en plus finir, comme des allégories de l'éternité où doivent s'inscrire le règne et le château du plus grand roi du monde. Des milliers d'ormes, de marronniers d'Inde, des chênes, des tilleuls, 5 millions de pieds de charmilles. Tout cela est planté en 1684. Les jardins sont confiés à Le Nôtre, la décoration intérieure à Charles Lebrun, les travaux d'aménagement à Levaux. Et l'architecte en chef ? De 1678 à 1708, c'est Jules Hardouin Mansart. À Paris, il réalise aussi la place des Victoires, le dôme des Invalides, la place Louis-le-Grand, devenue la place Vendôme. Dès qu'il est à pied d'œuvre, Hardouin Mansart donne des ailes au château, à la démesure du monarque, celle du Midi, où vont loger les princes de sang, puis celle du Nord. Ensuite sont élevées les grandes et les petites écuries, une nouvelle chapelle, le grand et le petit Trianon, le château de Marly. Mais ce qui va émerveiller tous les visiteurs qui viennent à Versailles, encore aujourd'hui, c'est la transformation d'une terrasse au centre de la façade orientée au couchant, en galerie dont les hauts murs sont habillés de miroirs. La galerie des glaces. Et que trouve-t-on dans la galerie des glaces ? La représentation des actions héroïques du plus grand roi du monde, lors des guerres contre la Hollande, contre l'Espagne. Le brin se surpasse. Tout semble, tout tremble, tout est saisi de terreur. Même la divinité symbolisant le Rhin à la vue de ce conquérant légendaire. La matinée à Versailles, dans les années 1670-1700, elle est minutée, réglée comme du papier à musique, afin que dans l'incessant ballet qui tourbillonne autour du roi, jamais un faux pas ne soit commis. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, qui a tant écrit sur la vie à la cour en trempant souvent sa plume dans le vinaigre, la jalousie peut-être, affirmait qu'avec une montre et un almanach, on pouvait, à 300 lieues du roi, dire ce qu'il faisait. Et que faisait-il? Eh bien voici, vous n'avez qu'à suivre. Les premières entrées, 8 heures. 3 personnes pénètrent dans la chambre du roi. Son premier médecin, son premier chirurgien et son premier valet de chambre qui lui dit, comme Yves Montand à Louis de Funès dans le film La Folie des Grandeurs, « Sire, voilà l'heure. » 8h10. Le premier médecin et le premier chirurgien prodiguent au roi une sorte de massage doux et lui enlèvent sa chemise souvent mouillée de sueur. 8h15. Le grand chambellan ouvre la porte de la chambre du roi à ceux qui ont le privilège de ce qu'on appelle les grandes entrées. Ils sont peu nombreux. Ce sont le frère, les fils et petits-fils du royal éveillé, sur les mains duquel le premier valet de chambre verse de l'alcool de vin. Puis le grand chambellan présente à Louis son livre de prière et de l'eau bénite. Le roi prie 10 minutes dans son lit, puis il se lève, chose s'émule. Les secondes entrées. 8h30, voici les secondes entrées. Des seigneurs tout réjouis d'avoir obtenu le privilège extrêmement recherché de se trouver là, tout près du roi. Ils pénètrent dans la pièce. On voit aussi les porteurs de chaises d'affaires. Ce sont les chaises percées, des espèces de toilettes ambulantes. On voit le barbier qui rase le roi une fois tous les 2 jours et lui passe une perruque légère. Molière, invité permanent jusqu'en 1673, ce qui est exceptionnel, est très souvent présent. Le roi parle de chasse, s'entretient avec tel ou tel, ce qui va déclencher la jalousie de tous ceux qui n'attendent que cet honneur suprême. 9h. Après les secondes entrées, le roi a demandé ce qu'il appelle sa chambre, métonymie désignant une foule de toutes sortes de gens au service du monarque et qui vont envahir la dite chambre. Des conseillers d'État, des capitaines de garde, des maîtres d'hôtel, des architectes, des aumôniers, des huissiers, des artistes, des tapissiers, des gardes du corps, un dentiste, un oculiste, un rebouteur, au cas où le roi se serait démis quelques membres. Le déjeuner de Sa Majesté avant la messe. 9h15, Sa Majesté déjeune. Un bouillon lui suffit, trempé d'un peu de pain parfois. Lorsqu'il a terminé, c'est son fils, le dauphin, qui lui tend la serviette dont il s'essuie les lèvres. Le roi quitte sa robe de chambre, sa chemise de nuit. Il ne lui reste plus rien à enlever. Le roi est nu. Vous tentez de voir, vous ne verrez rien. 2 valets ont tendu la robe pour faire écran. 9h30. Un valet donne au dauphin la chemise royale. Le dauphin la présente au roi, qui l'enfile, après avoir installé autour de son cou les reliques qu'il porte toujours sur lui. Il ceint ensuite son épée, revêt une petite veste, une veste plus longue, le juste au corps, et noue sa cravate. On lui tend une soucoupe sur laquelle se trouve un mouchoir dont il se saisit. On lui tend aussi son chapeau, sa canne et son manteau. Le roi prie une dernière fois, puis il passe dans son cabinet afin de discuter de l'avancement des travaux de son palais doré et adoré. 10h, la messe. Afin de se faire remarquer du roi, et peut-être choisir pour la nuit ou la vie, qui sait, les femmes tournent souvent le dos à l'autel. La messe terminée, cabinet de nouveau avec les ministres. Au programme, les affaires du pays. Midi, Le roi passe sur sa chaise percée. Qu'est-ce que cette chaise percée ? C'est l'ancêtre de nos toilettes verrouillées, que nous avons limitées à une place dans un espace relégué souvent au fond du couloir à gauche. Au temps de Louis XIV, on n'entretient pas avec la défécation une intimité close, contrite, presque coupable en ce qu'elle signale inévitablement, dans la proche atmosphère où elle s'est déroulée, le passage de son auteur. Non, chez Louis XIV, point de chichi, on s'installe sur sa chaise percée en toute simplicité, tout en recevant des amis, en discutant, en jouant aux cartes. Cette chaise est installée dans une chambre, dans un cabinet, pièce attenante à la chambre, lieu de réunion, notamment pour les ministres et le roi. Le mot « cabinet » désignant nos toilettes contemporaines est d'ailleurs emprunté à ce lieu où on apportait au roi sa chaise percée. Elle était, nous dit un témoin et auditeur de l'époque, en aventurine, pierre fine du Japon, ornée de paysages et d'oiseaux en relief. Elle comportait plusieurs tiroirs garnis de velours rouge. Et voici l'étonnant, le singulier et presque l'incroyable pour nous. Les gentilshommes, descendants, cousins ou parents des anciens frondeurs ou révoltés de toutes sortes, ceux-là qui avaient tant menacé le pouvoir royal. Eh bien, ces nobles se seraient battus à mort pour avoir l'honneur d'obtenir un brevet d'affaires. Qu'est-ce que ce brevet d'affaires qui coûtait une petite fortune ? C'était le droit, l'honneur si recherché d'appartenir au cercle d'intimes qui conversait avec le roi pendant qu'il occupait sa chaise percée. C'est l'une des grandes réussites de Louis XIV. Avoir domestiqué la noblesse, l'avoir asservie, abaissée au point que son idéal se réduise au partage de l'instant où le souverain sacrifiait, selon l'expression d'époque, aux dernières misères auxquelles la nature nous assujettit. Le Colombin.
Voyage aux Pays-Bas. À Versailles, point de lieu d'aisance. Les courtisans ou les visiteurs, déjà nombreux, vont faire leur commission n'importe où, sous l'escalier, dans un recoin, un passage discret, de sorte que l'atmosphère du château est empestée en permanence. Les chaises percées existent, certes, mais elles sont en nombre insuffisant, seulement 274, et elles appartiennent aux ducs, aux comtes, aux marquis, aux princesses. Celles-ci reçoivent souvent, comme le font les hommes, sur leurs chaises percées. Deux domestiques sont chargés de soulever la robe afin que s'installe, sur la selle nécessaire, le précieux popotin. De là vient le terme « les selles », désignant par métonymie la matière fécale. Et parce qu'elle parle de tout, de rien, parce qu'elle caquette, on donne à la chaise percée le nom habituel du siège haut, pratique pour la conversation, la caquetoire. Le modèle le plus en vogue a la forme d'une pile de livres qui porte sur sa tranche l'inscription « Voyage aux Pays-Bas ».
En 1680, le roi a mal aux dents. Son premier médecin, Antoine d'Aquin, décide de lui extraire une molaire cariée. Hélas, il ne la lui extrait pas, il la lui arrache. Un abcès se forme, suivi d'une inflammation des sinus. Le roi souffre horriblement. Mais tout cela n'est rien. D'Aquin, jugeant la situation dangereuse, décide de poursuivre, non l'extraction, mais l'arrachage. Il décide que toutes les dents de la mâchoire supérieure doivent disparaître, ce qui est fait. Mais D'Aquin a mis tant de cœur et de conviction dans sa tâche que la moitié du palais royal, ou presque, est venue avec les dents. La mâchoire a éclaté et l'os s'est infecté. Bref, il a fallu recourir aux moyens radicaux de l'époque pour éviter infection et gangrène. Le bouton de feu. Qu'est-ce ? Il s'agit d'une tige de fer, maintenue rougie dans les braises, et qu'on applique sur une plaie afin de brûler les chairs où se déclarerait une inflammation souvent fatale. Et pour réparer le palais du roi, ou tenter de boucher le trou consécutif à la dévastation d'Aquine, le bouton de feu a été appliqué 15 fois. Évidemment, le roi ne peut plus mâcher ses aliments. Et comme il mange fort goulûment, ceux-ci, à cause du trou dans le palais, ressortent parfois par le nez.
À table, Louis Dieudonné. Midi. Le roi s'installe devant sa petite table carrée, dans sa chambre, face à la fenêtre. La foule des courtisans est accourue. Elle n'a rien dans l'estomac, elle. Elle va se nourrir du spectacle du monarque, attrapant de ses mains prestes les viandes qui vont être portées à sa bouche avec une gourmandise gloutonne inégalable. Point de fourchette, ça se passe comme ça chez Louis XIV. Et pourtant, ce n'est pas une restauration rapide. Près de 400 personnes ont préparé le repas royal qui va être convoyé jusqu'à la table à grand renfort de fifres, de tambourins, de maîtres d'hôtel, de gentilshommes servants, de gentilshommes tranchants, d'écuyers, des chansons. Et que mange le roi ? Retenez un instant votre souffle. Devant vous, le roi va manger, en partie, mais quand même, du potage de tortue, de la bisque de pigeonneau, du potage de mouton au navet, de la queue de mouton aux figues, de la cuisse de chevreuil, du poulet d'Inde à la framboise, du cochon à la dombe, du poupeton, du riz de veau avec des crêtes de coq et de la viande hachée, du héron, du faisan, de la gélinotte, du dos de sanglier, du faon. Voici les entremets, c'est-à-dire ce qui est servi entre les mets plus copieux, de la tétine de vache, de l'oreille de cerf, du foie de chevreuil, des beignets de moelle. Attendez, ce n'est pas terminé, il reste le dessert. On apporte des confitures au parfum, des tourtes au musc, de la crème à l'ambre, des pralines. Fin du repas du midi. Le roi mangera-t-il ce soir ? Bien sûr, à 10 heures, 12 pigeons, 3 chapons, 6 poulets, du veau, des poulards, d'un faisan, des perdrix. Tout cela est arrosé des vins les plus fins. Et presque tous les matins, Louis se plaint d'avoir fait des cauchemars dans la nuit.
Retrouvons Louis XIV après son repas. Voici la deuxième partie de sa journée. Le roi va prendre l'air, toujours entouré d'une foule babillarde de courtisans et courtisanes. Cette promenade est salutaire pour tout le monde. En effet, en milieu clos, on reconnaît la présence du roi à son odeur. Non seulement il ne se lave jamais, comme ses contemporains, on accuse l'eau de donner des maladies. Mais ses problèmes dentaires lui donnent une telle haleine que lui-même, pour ne pas gêner ceux qui lui tiennent compagnie, va ouvrir toutes grandes les fenêtres afin de dissiper les mauvaises odeurs. Et cela par tous les temps. Le roi ne connaît pas le froid. De même, en carrosse, il exige que les vitres soient toujours ouvertes. Enfin, le roi trop glouton est puni de sa gourmandise par une entérite presque constante qui le fait séjourner plus longtemps et plus souvent que tout autre sur sa caquetoire. Après la promenade, le roi va chasser. C'est un excellent tireur. Il adore chevaucher pendant des heures à travers la forêt et il conservera cette habitude jusqu'à la fin de sa vie. À 76 ans, il chasse encore plus de 5 heures consécutives. Vers 6 heures, il rentre au château, tient conseil avec ses ministres, dîne à 10 heures, puis joue au billard, danse. C'est un excellent danseur qui aime se produire devant ses courtisans. Ensuite vient le grand coucher. Le roi, dans sa chambre, nourrit ses chiens favoris, puis les courtisans entrent. Le roi a désigné celui qui va tenir son bougeoir. Un dernier séjour sur la chaise percée. Au lit, Louis XIV. Tout le monde se retire. Mais le roi va entamer sa nuit secrète. Conduit dans l'obscurité par son valet, auquel il est attaché par un cordon de soie, il va retrouver, dans les chambres voisines, celles qui vont se laisser galamment entretenir par la robuste intelligence du monarque.